Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. C'est Face à l'info qui commence, mais avant cela, comme il est 19h tout pile, on fait un point sur l'information avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne.
Au lendemain du verdict rendu par la Cour d'assises spéciale de Paris au procès du 13 novembre, la justice belge s'est, elle, prononcée aujourd'hui, avec notamment 4 relax, 2 peines de prison ferme et du sursis pour le logeur de Salah Abdeslam à la fin de sa cavale. Dans ce dossier baptisé Paris Bis, 14 complices présumés des commandos étaient visés. Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mercredi prochain à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'occasion pour la Première ministre d'exposer devant les députés les grandes orientations de son programme de gouvernement. Sur cette déclaration, la question d'un vote de confiance n'est cependant pas encore tranchée, selon Matignon. Un vote qui engagerait la responsabilité d'Elisabeth Borne devant les élus. Des parents d'élèves en colère, ils attaquent l'État en justice pour réclamer une indemnisation pour le non-remplacement des enseignants absents. Ils veulent aussi rappeler, je cite, que l'école est obligatoire et qu'avoir des professeurs n'est pas une option. En Île-de-France, dans certains établissements, une centaine d'heures de cours n'ont pas été assurées cette année.
Et au sommaire de Face à l'info ce soir, un insoumis à la tête de la puissante commission des finances de l'Assemblée nationale. Éric Coquerel a été élu, il a promis de ne pas utiliser ce poste à des fins de chasse aux sorcières personnelles. De quoi faire réagir Mathieu Bock-Côté. Si vous êtes boomers, attention, ne va pas ménager votre ego. Dimitri Pavlenko reviendra sur le livre que François de Closet consacre à cette génération qu'il juge particulièrement égoïste, autoritaire et dépensière. Un voyage en absurdie, les méandres du droit et de l'administration française avec Charlotte Dornelas à travers cet exemple. Un aller-retour de 1000 km pour des policiers, pour rien, parce qu'un étranger a refusé son expulsion. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a détaillé ses 5 chantiers prioritaires pour l'école, avec en premier l'axe numéro 1, la lutte contre les inégalités sociales. Ça commence mal, ce n'est pas dans le bon ordre, nous dira Jean-Sébastien Ferjou. L'Écosse sera-t-elle un jour indépendante? La première ministre écossaise espère un nouveau référendum à l'automne 2023. L'occasion pour Mathieu Bock-Côté de revenir sur les mouvements indépendantistes en Europe et plus largement sur la question du nationalisme. Face à l'info, c'est parti et on est ensemble pendant une heure. Les grands tumultes de l'Assemblée nationale. Depuis quelques jours, Mathieu Bock-Côté, on en a parlé déjà hier d'ailleurs. L'Assemblée nationale connaît de grands tourments. Hier, ce matin encore d'ailleurs, plusieurs ne cachaient pas leur effroi devant l'élection de 2 députés du Rassemblement national parmi les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est l'élection, je le disais, d'Éric Coquerel, l'insoumis, qui suscite des commentaires puisqu'il sera à la tête de la puissante commission des finances. Alors comment interpréter ces journées mouvementées? Quel regard vous portez sur ces élections?
Il faut justement chercher à comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. On a dit avec raison que l'arrivée de députés, en fait de courants politiques qui ne faisaient pas partie des courants habituellement représentés à l'Assemblée nationale, risquait de forcer l'Assemblée nationale à développer une culture parlementaire nouvelle, une culture de la négociation parlementaire. Or, le propre de la culture de la négociation parlementaire, c'est que c'est le contraire absolu du cordon sanitaire. Vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé de faire affaire avec des gens dont vous disiez la veille encore qu'ils étaient absolument marqués du sceau du démon. Ce qui est quand même assez compliqué. Ensuite, comment négocier avec le démon dans le partage des places? C'est la question qui en habite plusieurs depuis quelques jours. Et avant même de revenir sur Éric Coquerel, je veux revenir sur un élément qui a été un peu laissé de côté, mais qui me semble plus important qu'on ne le dit. le discours du doyen de l'Assemblée, José González, je ne vais pas me tromper dans le nom, José González, qui a fait un discours où il a témoigné de son... C'est un Français rapatrié d'Algérie.
Et précisons qu'il est du Rassemblement national.
Bien sûr qu'il est du Rassemblement national. Et qui a fait le discours d'ouverture. C'était le privilège de l'âge. C'était le privilège qui était le sien. Et un discours qui était accueilli par les insoumis comme une forme de scandale absolu. Un discours où il rappelait son passé, il rappelait à travers son passé la mémoire de la France en Algérie, il rappelait que l'histoire de la France en Algérie ne saurait se réduire à des crimes à répétition qui feraient en sorte qu'on devrait maudire à jamais cette part de la mémoire française. Et pour cette simple présence, une bonne partie des insoumis se sont mobilisés en disant « Voilà la preuve qu'encore une fois, la bête immonde est parmi nous. » Et j'ai quelques citations que j'ai recueillies ici et là qui permettent de voir justement dans quel est l'état d'esprit, c'est-à-dire comment, notamment les insoumis, sont incapables, pour l'instant encore, d'accepter la simple présence de leurs adversaires à l'Assemblée nationale. Trois citations. Alexis Corbière, le toujours subtil, dire, alors parce qu'ensuite on a interrogé González sur la question du rapport à l'OAS et ainsi de suite. Alors, dire, je ne sais pas s'il faut juger les crimes réels ou non de l'OAS, c'est Corbière, ça s'appelle du négationnisme historique. L'Assemblée nationale aujourd'hui était présidée par un homme qui fait du négationnisme historique sur un moment difficile de l'histoire de France. Alors là, j'y reviens souvent avec une certaine insistance, mais ça me semble essentiel à rappeler. Le négationnisme, ce terme qui a été formulé dans la deuxième moitié du 20e siècle, sert essentiellement, je dirais même exclusivement, à définir ceux qui non seulement nient l'Holocauste, ce qui est quand même déjà beaucoup, mais qui plus encore nient le rôle des chambres à gaz dans l'Holocauste, donc qui nient la Shoah et qui nient le rôle des chambres à gaz dans la Shoah. Utiliser ce terme pour qualifier ensuite un discours qui, aussi critiquable soit-il, ne relève pas, à ce que j'en sais, de la négation de la Shoah et de la négation des chambres à gaz, c'est utiliser donc ce terme de négationnisme pour en fait disqualifier jusqu'à la mémoire exprimée sous le signe d'une forme de mélancolie et de nostalgie, qu'on peut partager ou non, la question n'est pas là, de José González lorsqu'il rappelait donc son parcours personnel et celui de milliers d'autres Français. Négationnisme. Hein? On utilise ce terme-là pour parler de ceux qui nient les crimes nazis. La France insoumise fait preuve de grande subtilité. Mathilde Panot, toujours aussi subtile elle aussi, nous dit, elle accuse González et le Rassemblement national de faire l'apologie de l'Algérie française et des crimes de la colonisation. Alors on passe de témoigner d'un souvenir mélancolique à l'apologie de l'Algérie française. On pourrait penser qu'elle parlait de François Mitterrand, par exemple. Hein, ça aurait été... Mais ce n'était peut-être pas le cas non plus. La mémoire de la gauche est une chose complexe. Ou peut-être pensait-elle à Jules Ferry, hein, et la conception qu'il avait de la colonisation. Peut-être aussi, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Et des crimes de la colonisation. Comment peut-on passer d'une confession mélancolique en forme de discours à l'apologie des crimes de la colonisation? On voit dans le contraste entre le discours tenu et l'interprétation qui en est faite, à quel point l'interprétation délirante est un principe de méthode lorsque la gauche radicale décide de se prononcer sur le discours de ses adversaires. Quant à Sandrine Rousseau, la théoricienne de son camp, elle nous dit « Le RN veut montrer patte blanche, mais ça explose dès le premier discours. » Pardon, on serait en droit de demander à ces gens quel aurait été un discours légitime sur celui-là, probablement celui des indigènes de la République. Alors pourquoi je prends la peine de mentionner tout cela? C'est parce qu'il y a une autre force qui est apparue, vous l'avez mentionné, dans l'Assemblée nationale, qui est la France insoumise, et autant il y a une forme de rituel presque politique, rituel, enfin un réflexe pavlovien, qui consiste à dire attention danger, attention RN, attention extrême droite, attention bête immonde, attention fascisme, tac tac tac, la musique, ainsi de suite, on fait jouer du Wagner. Bon. Ça, c'est le rituel, nous le connaissons. Mais devant l'émergence d'une force véritablement radicale, d'une force non seulement radicale, et qui ne se contentera pas d'ailleurs d'occuper deux vice-présidences de l'Assemblée, mais qui va exercer un véritable pouvoir avec une possibilité de persécution politique et fiscale, en la figure d'Éric Coquerel, alors soudainement, on ne sait pas exactement quoi faire, et c'est l'événement en fait des deux derniers jours, de quelle manière assumer le fait que cette gauche radicale va exercer des responsabilités qui ne seront pas que symboliques et qui lui permettront de jouer un rôle de persécution, à tout le moins, de menace et d'intimidation régulière.
Alors, on va revenir justement à ce qui s'est passé aujourd'hui. Le débat s'est cristallisé comme prévu, hein, d'ailleurs, autour de la commission des finances et de l'élection d'Éric Coquerel. Qu'est-ce qu'on en retient?
Alors, deux candidats. D'un côté, Éric Coquerel, de l'autre, Jean-Philippe Tanguy. Alors, Éric Coquerel, nous le savons, ce n'est pas un militant ordinaire de la France insoumise. Il appartient à la gauche de la gauche de la France insoumise. Ça, c'est quand même très loin à gauche. Il faut des jumelles pour voir où il se trouve. Alors, un homme qui a participé, pour ne pas dire qu'il a initié, collaborer à la... C'est peut-être pas le bon terme, mais il l'aurait utilisé, lui. Au virage communautariste, racialiste et indigéniste de la France insoumise. Donc, il appartient à cette aile de la France insoumise qui a fait basculer le combat, on pourrait dire, de l'anticapitalisme. Il est né dans l'anticapitalisme, pour l'essentiel, à cette espèce de gauche radicale versée dans le communautarisme, tout le discours décolonial à la mode et qui porte ses fruits électoraux, il faut bien le dire, on l'a vu au moment des élections d'abord présidentielles et ensuite législatives. Donc il appartient à cette gauche-là. De l'autre côté, il y avait Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy qui vient, alors là, il est associé au Rassemblement national, mais il vient à l'origine de Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, qui, à ce qu'on sait, appartient à peu près à ce que les bons et les gardiens du régime nomment le périmètre de la respectabilité républicaine. Donc, devant deux hommes qui, on peut supposer que l'un est plus, d'ailleurs, un profil un peu plus raisonnable, ne serait-ce que dans son parcours, sa formation, devant ces deux hommes, une bonne partie de la classe politique ne savait tout simplement pas comment réagir. C'est-à-dire, que faire donc, devant un homme qui manifestement a des tendances radicales, pour ne pas dire extrêmes, Coquerel, et de l'autre, un homme qui semble qualifié pour le poste, mais qui porte la terrible étiquette du RN, d'autant, et ça c'est important, la veille, le RN réussit à avoir deux vice-présidences, plusieurs manifestement chez les Républicains, ou chez les... même dans la majorité, ont presque voulu se faire pardonner, en fait. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Ont voulu se faire pardonner la présence des deux vice-présidences RN. De quelle manière se faire pardonner cette concession symbolique? Eh bien, en faisant en sorte que le lendemain, le gros poste soit raflé par la France insoumise et pas par n'importe lequel des membres de la France insoumise. Un autre élément s'ajoute à ça, la tradition parlementaire. Mais ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment, c'est que les traditions parlementaires ne tiennent que jusqu'au jour où elles sont remises en question. La tradition parlementaire voulait que la présidence de la Commission des finances appartienne au représentant du principal parti d'opposition, donc le RN. Mais là, par le jeu des intergroupes et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on a vu? Éric Coquerel est parvenu, la France insoumise est parvenue à s'emparer de ce poste. Et ça crée une inquiétude majeure. Alors pourquoi? Parce que le président de cette commission a accès aux dossiers qui relèvent du secret fiscal. Donc, la possibilité de dossier. Alors, personne ne peut s'imaginer, évidemment, que le président de cette commission aurait l'idée, par exemple, de refiler des dossiers comme ça, différents journaux, des canards d'enquête sur le mode inquisiteur comme Mediapart. On ne peut pas imaginer qu'il ferait ça. Mais certains se sont quand même imaginé la chose et ont confessé leur inquiétude en se disant, est-ce responsable de confier à un homme qui est justement un idéologue pur et dur la responsabilité avec un tel pouvoir. D'autant que la tradition voulait qu'on essayait de confier ce poste aussi à un modéré. Qu'est-ce qu'on entend par un modéré? C'est quelqu'un qui est acceptable pour tous les camps. C'est un homme de droite qui est acceptable par la gauche, un homme de gauche acceptable par la droite, la figure centrale qui appartient à tous les régimes. Eh bien ça faisait partie de la tradition aussi. Et on l'a congédié. Et dès lors, et là, ce qui est fascinant, c'est que Coquerel lui-même dit « Non, 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 je ne ferai pas de persécution fiscale. Je veux pas... » Il dit « Oui, je veux lutter contre l'évasion fiscale, dit-il. » Mais ce que l'on sait en ce monde, c'est que quelquefois, les plus bas instincts sont maquillés par les plus nobles idéaux. Certains s'inquiètent en se demandant « Est-ce qu'il va y avoir une forme de persécution dissimulée derrière la lutte à l'évasion fiscale ?» À tout le moins, c'est une crainte par plusieurs confessés.
Juste, Mathieu, précisez-nous, quelle est l'influence qu'ils ont réellement, ces postes-là? Parce qu'on en parle depuis quelques jours, quel poids politique?
Alors, on doit l'inscrire dans une question plus vaste. Quel est le poids de l'Assemblée dans la séquence politique qui s'ouvre? Parce qu'autant l'Assemblée prend une importance immense, certains disent même démesurée, immense, pourquoi? Parce qu'elle représente enfin, les différents courants politiques qui structurent la nation. Donc là, pour une fois, elle est à peu près représentative. On l'a dit à plusieurs reprises, les Français ont finalement cette espèce de paradoxe de ces élections. En n'allant pas voter, les Français sont parvenus finalement à produire une chambre à peu près représentative de leurs préférences politiques. C'est le génie de l'abstention. Cela dit, donc l'Assemblée prend une place immense parce qu'elle est en fait représentative, mais on risque de se retrouver avec une présidence qui va être, les choses vont reprendre leur cours, il se peut que l'hyper-présidence soit radicalisée parce que justement, devant une Assemblée potentiellement paralysée, la présidence soit là très forte. Donc, dans quelle mesure est-ce que ces postes sont importants? Ils le sont néanmoins pour ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'accès au secret fiscal, l'accès à des dossiers, la possibilité de lancer des opérations de contrôle fiscal. Nous savons que l'opération de contrôle fiscal fait partie probablement des preuves de l'existence du diable sur Terre. Donc, tout cela pour dire que c'est un pouvoir qui n'est pas insignifiant et c'est un pouvoir surtout qui est sous le signe de l'intimidation. Et je me permettrai une dernière réflexion. Il y a par ailleurs un contraste immense. Une réflexion un peu décalée, mais vous verrez pourquoi. Entre d'un côté l'observation de ces calculs dans la conquête des postes des uns, telle vice-présidence de ci, la vice-présidence de l'agriculture, la vice-présidence du commerce équitable. J'invente des commissions, mais elles doivent exister. Donc, cette espèce de querelle des postes dans l'Assemblée. Et de l'autre côté, le procès du Bataclan, où ce qu'on nomme enfin depuis quelques jours, après des mois et des mois sous le signe de l'esprit technique et juridique, on redécouvre que la dimension centrale, c'est l'idéologie islamiste qui agresse la France, qui agresse le monde occidental. D'un côté, une nation qui s'examine, qui s'oscule dans la décomposition parlementaire, et de l'autre, l'incapacité à nommer le mal qui frappe violemment. Il y a une forme de contraste là-dedans, de société qui est quelquefois incapable de voir quels sont ses véritables périls et qui préfère se décomposer.
Il est 19h15, on va faire le rappel des titres avec Jeanne Cancard.
Si vous comptez prendre l'avion demain, une grève perturbe le trafic aérien dans les aéroports parisiens. À Roissy et Orly, 17% des vols sont annulés ce vendredi. Les syndicats appellent à la mobilisation et ils réclament des augmentations de salaire de l'ordre de 6 à 10%. La grève pourrait se poursuivre ce week-end si les négociations avec la direction n'aboutissent pas à un accord. Les réquisitions au procès du violeur de la Sambre, 20 ans de réclusion criminelle ont été requis ce matin à l'encontre de Dino Scala. Pendant 30 ans, il est inlassablement allé chasser de la fille, chasser de la femme, a plaidé la première avocate générale. Le prédateur a fait au total 56 victimes mais n'a avoué que pour 40 d'entre elles. L'OMS s'attend à des niveaux élevés de Covid-19 cet été en Europe. L'Organisation mondiale de la santé appelle à surveiller le virus de près après un triplement des cas quotidiens depuis un mois et demande aux Européens de continuer à s'isoler en cas de symptômes respiratoires et à porter un masque dans les endroits les plus fréquentés.
Jean-Sébastien Ferjou, une réaction à la chronique de Mathieu Bock-Côté sur cette Assemblée nationale et notamment sur l'élection du président de la Commission des finances en la personne d'Éric Coquerel, l'insoumis.
Je ne vais pas revenir sur ce que Mathieu a très bien exposé, mais juste, malgré tout, peut-être un intérêt, c'est que la Commission des finances, elle peut servir à contrôler l'action de l'exécutif, elle peut servir à contrôler justement l'exécution des lois de finances, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup d'insincérité budgétaire, comme on le dit pudiquement, autant dire un peu de trafic, de mensonges sur les chiffres publics. Il y a beaucoup de choses qu'on met sous le tapis. Donc avoir un opposant très déterminé, que ce soit M. Coquerel ou un membre du RN ou un autre, ce n'est pas là le cœur de ma réflexion, mais ça peut peut-être être utile et espérons qu'il parviendra à obtenir de Bercy plus d'éléments d'information que ce que Bercy n'en livre jusque-là aux parlementaires, parce que c'est la croix et la bannière pour les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, pour obtenir de Bercy les informations qui pourtant reviennent de droit aux représentants des Français.
On verra alors. Ce qu'il en est, évidemment. Dimitri Pavlenko, vous nous parlez ce soir d'un livre, il est signé François de Closet. Il s'intitule « La parenthèse boomers ». Si c'est votre cas, les boomers, attention, hein, c'est un nouveau livre à charge, très à charge contre la génération dorée qui est née après la Seconde Guerre mondiale et à qui tout le monde demande des comptes, finalement, aujourd'hui.
Alors déjà, ça s'appelle « La parenthèse boomer », vous comprenez bien pourquoi, parce que la parenthèse, a priori, elle est en train de se refermer. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que l'offensive contre les boomers, elle était menée aujourd'hui par des jeunes. Greta Thunberg, vous pensez à elle. Donc les enfants, voire les petits-enfants des boomers. Là, François de Closet, alors je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas qui il est, allez voir sa photo sur Internet, vous allez tout de suite le reconnaître. Journaliste, producteur d'émissions pendant des décennies, sur la science, sur l'économie, sur la santé, la culture. C'est un grand vulgarisateur, François de Closet, écrivain également. Alors, je précise qu'il est né en 1933, donc il a 88 ans aujourd'hui, donc techniquement...
Il n'est pas boomer.
Ben voilà, il n'appartient pas à la génération des boomers, il est né juste avant. Cette génération des boomers qu'on fait généralement démarrer au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et particularité des boomers, c'est la génération la plus nombreuse de l'histoire de France, mais plus qu'une simple classe d'âge, c'est ce que les spécialistes appellent une génération sociologique. Il y a des choses très particulières qui caractérisent les boomers, on va y venir. Et la chose notamment qui les distingue, c'est qu'ils ont eu cette chance historique de grandir et de faire leur vie à une époque où, en fait, objectivement, en France, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de crise majeure, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Et c'est précisément cette absence de catastrophe qu'on est en train de payer. C'est ce que dit François de Closet. Alors, donc je vous disais, il parle de cette parenthèse boomer qui est en train de se refermer. À quelle occasion? Alors lui, il nous dit le Covid, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation. Inflation que les boomers ont connu quand même, malgré tout, dans les années 70. Mais en fait, ça s'est d'ailleurs pas si mal passé que pour eux que ça à l'époque, puisque leurs salaires ont augmenté. Ils ont pu acheter des maisons pour trois fois rien à l'époque. Voilà. Et donc ce retour du tragique dans l'histoire, notamment de la guerre sur le sol européen, ce retour du tragique dans l'histoire, nous n'y sommes absolument pas préparés. Et ça, c'est là qu'est la responsabilité des boomers, et c'est la conséquence en fait de cette absence de catastrophe que toute une génération a pu expérimenter. Les boomers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont tout connu. Ils ont connu la paix, ils ont connu la liberté, trouver un emploi sans aucune difficulté, la prospérité.
Le rock'n'roll.
Voilà, le rock'n'roll aussi, vous avez raison.
C'est une grande passion.
Grand acquis de l'histoire, je suis d'accord avec vous. Et en fait, les boomers n'avaient qu'à maintenir cette situation pour leurs enfants. C'était la seule chose, en réalité, le seul grand défi qu'ils avaient à accomplir. Pas de conquête, réellement. La seule conquête, c'était de ne pas baisser. Et au-delà de ça, que constate-t-on? C'est que c'est une génération qui, globalement, s'est laissée vivre, a profité de son confort, sans penser aux générations suivantes et à la planète. Ça, c'est le grand reproche qu'adresse François de Closet et avec lui tous ceux qui instruisent le procès des boomers. Et le symbole, c'est la fameuse expression « OK, boomer », qui dit tout. Voilà, « OK, boomer ».
Alors, il y a le livre, il y a aussi un article dans le Figaro de François de Closet. Et il accuse, là, il va aussi, il accuse les boomers d'avoir dilapidé l'héritage. Expliquez-nous.
Alors déjà, il a bonne mémoire, François de Closet, c'est qu'il se souvient que dans les années 70, le regard que le monde et que notamment les Américains portaient sur la France était admiratif et même envieux. C'est-à-dire qu'on disait de la France que c'était le dragon de l'Europe, comme on a dit de la Corée, que c'était le dragon de l'Asie à un moment. Alors j'ai retrouvé une étude, c'est pas dans le livre de François de Closet, mais vous allez voir, ça symbolise tout. Vous allez vous dire que j'ai d'étranges lectures, mais c'est une étude qui est datée de 1973, signée du Hudson Institute. C'est un think tank conservateur américain. Et donc cette étude de 73, intitulée « L'envol de la France dans les années 80 ». Mais regardez ce qu'on lisait sur la France. La France possède aujourd'hui, donc on est en 73, l'économie la plus dynamique d'Europe. Elle peut espérer dans 10 ans être l'économie européenne la plus puissante en termes de production totale. Ils jouiront, les Français, du niveau de vie le plus élevé d'Europe en 1990. Mais regardez 50 ans plus tard, la cruauté de la comparaison. Voilà, on se traîne 100 milliards d'euros de déficit commercial, 3 000 milliards d'euros de dette, on en parlait avant-hier. Vous n'avez aucun Français de moins de 48 ans qui a connu un budget à l'équilibre en France aujourd'hui. Et on est content parce qu'on est en dessous de 8% de chômage. Je veux dire, 8% et on est satisfait. Et le drame, c'est que cette montagne de dette colossale, il s'intéresse beaucoup à l'économie, François de Closet, vous allez le comprendre. Cette montagne de dette qu'on a accumulée, ça a servi à quoi? À investir sur l'avenir? À décarboner notre économie? Non, pas du tout. Dépenses de confort, dépenses de consommation. Voilà, ce que dit François de Closet, c'est que les boomers au pouvoir ont été de piètres dirigeants, ont été fort peu prévoyants, des cigales. Voilà. Alors, il souligne d'ailleurs la particularité de cette génération des boomers, c'est qu'elle a pris le pouvoir très jeune. Alors pas forcément en occupant d'emblée tous les postes, mais en dictant sa loi à ses pairs. Et il donne l'exemple de la démission du général de Gaulle, du départ du général de Gaulle, sous la pression de la génération de mai 68, qui est une bande de gamins de 20 ans, quoi, fondamentalement, c'est ça. Et donc, la philosophie des boomers, en partant de 68, c'est on passe des lendemains qui chantent, qui était vraiment la philosophie, la mentalité qu'on avait après-guerre, faisons des efforts et nous en profiterons, à moi d'abord et tout de suite. Voilà. Et à partir de là, l'individu va écraser complètement le collectif, imposer sa loi. Et personne ne va oser contredire les boomers. Il donne l'exemple de Georges Pompidou qui dit il faut arrêter d'emmerder les Français. Voilà, à partir du moment où on dit cela, c'est ce qu'écrit François de Closet qui a cette très belle formule. Les boomers changent le régime sans changer la Constitution.
Et quand même, est-ce qu'il n'y va pas un peu fort, François de Closet?
Alors, à titre personnel, ce qu'on peut dire, moi c'est ce que je pense, c'est qu'il instruit, comme d'autres l'ont fait avant lui, ça fait 20 ans qu'on instruit le procès des boomers. Vous avez un livre de Denis Jambard de 2006 qui s'appelait « Nos enfants nous haïront ». Voilà, c'était quand même déjà, le décor était planté. Donc il instruit donc à son tour le procès de cette génération, mais en fait,
C'est une idéologie, surtout, qui a fragilisé la France, plus qu'une génération. Tous les boomers ne sont pas des profiteurs égoïstes et tous les jeunes ne sont pas des victimes. Regardez parmi les gilets jaunes, vous aviez beaucoup de boomers déclassés sur les ronds-points. Et qui voit-on dans les rangs de la Macronie ? Des gamins de 20 ans, 25 ans pour certains. Vous voyez, donc le dominant n'est pas toujours celui que l'on croit. Et la lutte des âges, symbolisée par « OK, boomer », n'est en fait pas le bon combat. Le drame, c'est que nous sommes toujours, en fait, dans le régime qui est apparu à l'époque des boomers. Ce qui dérègle la société, c'est le règne de cet individualisme forcené qui exige toujours plus de droits sans forcément remplir ses devoirs. Alors, regardez l'obsession du pouvoir d'achat, qui est perçu comme un acquis social. Et le rôle de l'État, le job de l'État, c'est de réassurer constamment cet acquis social que serait le pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, le quoi qu'il en coûte. Depuis 2 ans, nous sommes arrosés d'argent public par le pouvoir pour pas que le niveau de vie des Français baisse. Le refus de la vérité des prix à l'heure de l'inflation. Vous avez des pays qui ne luttent pas contre l'inflation. Hein. Bah oui, plus 12% d'inflation, c'est comme ça, c'est la vie, on subit. Et en fait, la peur d'avoir mal, c'est ça, en fait, l'héritage de cette mentalité boomer. Cette peur d'avoir mal, et puis la perte du goût de l'effort. Je suis quand même frappé que le futur grand acquis social, ce qu'on nous dit, la grande conquête sociale de demain, c'est la semaine de 4 jours de travail. Voilà. Donc François de Clauzet s'indigne notamment dans son livre, il parle beaucoup du grand âge, du débat sur la retraite à 60 ans pour tous, hein, qu'il considère comme une sorte de paroxysme de l'égoïsme générationnel, alors qu'aujourd'hui, les boomers ont quand même cette chance inouïe dans l'histoire d'être les plus riches que leurs enfants. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, hein, que les aînés, les vieux, soient plus riches que les jeunes. Voilà. Et ils considèrent donc qu'aujourd'hui, ces gens qui ont 60, 75 ans, bah, montreraient l'exemple de retisser ce lien générationnel et de souci de la génération avant ou après elle, en s'occupant notamment de ceux qu'il appelle les vieux, c'est-à-dire les plus de 75 ans, dont ils ont à l'époque si durement fait le procès dans leur jeunesse.
En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Dimitri.
C'est pas que la faute des boomers, voilà, c'est ça,
non,
ça le message.
On a compris. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après, évidemment. Restez bien avec nous dans Face à l'info sur CNews. Face à l'info sur CNews, il est 19h30. Alors avant de reprendre, on fait un point sur l'actualité avec Jeanne Cancard.
En déplacement dans les Bouches-du-Rhône, Gérald Darmanin annonce des saisies records, 1,5 tonnes de cannabis, soit 40% de plus par rapport à l'année dernière, ou encore 500 kilos de cocaïne en hausse de 2000%. Le ministre de l'Intérieur qui estime qu'à Marseille, je cite, « la police reprend du terrain ». La déception est immense ce soir au Festival des Eurockéennes à Belfort. La première soirée est annulée après un important orage au cours duquel 7 personnes ont été blessées. Elles sont actuellement en urgence relative et prises en charge à l'hôpital. Ce soir, Stromae et Bob Sinclair étaient notamment les têtes d'affiche pour ce qui devait être la soirée d'ouverture. Un rideau de fer est en train de s'abattre entre la Russie et l'Occident, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a même ironisé que les Occidentaux fassent attention et qu'ils ne se coincent pas les doigts dedans, a-t-il ajouté. Les Occidentaux qui poursuivent les sanctions prises à l'encontre de Moscou face à son invasion en Ukraine.
Charlotte, on reprend avec vous, avec cette histoire un peu ubuesque. C'est Kafka. Le 20 juin dernier, des policiers bretons ont escorté à Paris, à l'aéroport aussi Charles de Gaulle, un homme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et puis finalement, ils l'ont ramené. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de monter dans cet avion. Alors cet homme est ressorti libre. Les syndicats dénoncent l'absurdité de la situation. On les comprend. Comment est-ce possible ? Expliquez-nous ce qui s'est passé quand même.
Alors moi, ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'est qu'elle a l'air complètement absurde. Et en réalité, elle traduit quelque chose d'assez normal par rapport à la procédure. Non pas par rapport à notre intelligence, mais par rapport à la procédure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. On a là, en l'occurrence, on a un homme qui, en effet, est sous le coup d'une OQTF, donc ces fameuses obligations de quitter le territoire français, mais il n'est pas placé en centre de rétention administrative. Comme l'immense majorité des gens à qui on demande de quitter le territoire français, ils ont normalement 30 jours pour le faire eux-mêmes. On leur demande de partir, ils ne le font quasiment jamais. Et donc parfois, vous avez soit un placement en centre de rétention, mais comme il y a peu de place, c'est vraiment des profils soit dangereux, qui troublent l'ordre public, ou qui n'ont vraiment aucune garantie de représentation, d'adresse, et donc que l'on place en attendant d'organiser leur départ, ou alors on prononce une assignation à résidence, on dit « on connaît votre adresse, vous restez là, vous pointez tous les jours, et le jour où on a votre billet d'avion et votre départ de prévu, on vient vous chercher la veille, on crée un local de rétention administrative pour 24 heures pour vous placer là et on vous escorte à l'aéroport pour être bien sûr que vous preniez l'avion. Donc notre homme, en l'occurrence, était dans cette situation-là. Donc il était dans une chambre d'hôtel ce soir-là. Il était dans une chambre d'hôtel qui est... Alors, il faut un arrêté de la préfecture qui transforme la chambre d'hôtel par un arrêté pour 24 heures en local de rétention administrative, puisque tout ça, évidemment, sous la coupe du juge qui vérifie que tout ça se fait correctement. Il est placé sous protection policière pendant le soir. Et il y a une escorte qui vient le chercher, une escorte policière, qui vient le chercher à 3 heures du matin pour l'emmener à Roissy-Charles de Gaulle. En l'occurrence, son avion était à 12h30. Donc une fois que tout ça est organisé, il arrive en effet à l'aéroport et là il refuse d'embarquer. Alors en général on se dit c'est quand même pas possible, il n'arrive pas devant l'avion en disant je ne veux pas y aller. Non, en général ils savent pertinemment, puisque c'est désormais assez connu, que s'ils se mettent à hurler ou à manifester un désaccord bruyant, les compagnies aériennes refusent de les embarquer aussi. Et donc le refus se fait comme ça. Et là, les policiers appellent la préfecture des Côtes d'Armor, qui est chargée d'organiser ce départ. Et l'instruction leur est donnée de le ramener à Saint-Brieuc. Il y a un centre de rétention administrative à côté de Roissy, qui s'appelle le centre de rétention administrative du Ménil-Amelot. C'est le plus grand centre aujourd'hui en France. Mais comme tout ça est géré par les préfectures, ça n'est pas la même préfecture qui gère. Et donc, vous ne pouvez pas placer en centre de rétention administrative, puisque c'est l'exception, la règle demeurant la liberté pour ces personnes. Alors là, la préfecture nous annonce quand même à la fin, nous dit, on va réorganiser un départ. Alors là, le billet d'avion, juste pour information, il est perdu. Hein, donc c'est voilà. On va réorganiser un départ s'il y a persistance du refus. Donc la préfecture nous explique que bon, quand même, on prend ça en compte puisque probablement ça va arriver à nouveau. S'il y a persistance du refus plusieurs fois, la préfecture peut saisir le procureur qui peut lui-même engager des poursuites pénales avant de réorganiser, c'est-à-dire de reprendre tout le processus depuis le début pour réorganiser le départ de la personne. Alors, juste au passage, quelqu'un de la préfecture me disait, enfin d'une préfecture, me disait, il est extrêmement compliqué aujourd'hui d'obtenir des places dans les avions. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, il n'y a plus de charter, il n'y en a quasiment plus d'avions consacrés à ça, puisque la règle désormais, c'est des voyages individuels et non plus groupés sur les compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes, évidemment, on apprécie assez moyennement d'avoir le risque d'avoir un passager qui passe tout le voyage à ennuyer, pour le dire gentiment, le reste de leurs passagers, évidemment.
On a l'impression d'une histoire totalement folle, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que tout ça est très normé.
Oui, alors en fait, c'est normé. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, moi, ils vont finir par connaître ça par cœur, mais en 2011, la clandestinité n'est plus un délit. On décide par la loi que la clandestinité n'est plus un délit. Donc vous pouvez être clandestin en France. Ce qui est un délit, c'est de passer la frontière. On vous attrape rarement en train de passer la frontière. C'est assez rare. Donc une fois que vous êtes là, c'est pas un délit. On peut pas vous arrêter pour ça. Donc c'est lors de la commission d'une infraction ou d'un autre délit, au moment du contrôle d'identité, on découvre que vous êtes en situation irrégulière. Et là, la préfecture peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Ça devient tellement compliqué que les policiers disent eux-mêmes qu'ils ne le font plus parce que c'est énormément de papiers à remplir pour des procédures qui n'aboutissent jamais. Là, je vous le disais, soit il y a une obligation, enfin, soit la personne est laissée libre, dans la plupart des cas, c'est le cas, soit il y a un placement, une assignation à résidence, soit un placement en CRA. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, même quand vous le placez en rétention, vous avez 90 jours, l'État a 90 jours pour organiser le départ, à ses frais évidemment, aux frais de l'État, hein, c'est-à-dire au nôtre, quoi. Donc 90 jours pour organiser le départ avec un passage devant le juge extrêmement régulier et avec une obligation d'assistance juridique par les fameuses associations elles-mêmes financées par l'État, c'est-à-dire subventionné par l'État pour apporter l'assistance juridique. Alors, un, la liberté est la règle en l'occurrence. Là, ce qui s'est passé avec notre Marocain, c'est qu'il est ressorti libre parce qu'en effet, il n'avait pas été placé en centre de rétention administrative. Donc, on lui a dit, vous êtes désormais assigné à résidence. Une fois qu'il a refusé une fois, il peut partir de chez lui demain. C'est pareil, en fait, il va disparaître dans la nature, c'est quasiment certain. Et même en cas de placement en centre de rétention administrative, et c'est là où c'est complètement fou, l'éloignement aboutit extrêmement rarement. Pourquoi ? Pour faire très rapidement, une fois que vous arrivez en centre de rétention, vous avez donc ces 90 jours. Mais au début, vous avez 48 heures. Vous arrivez en centre de rétention, au bout de 48 heures, vous passez devant le juge. Non pas pour vous, mais pour être en face de la préfecture qui, elle, doit dire au bout de 48 heures pour prolonger la rétention, il faut que la préfecture justifie de la réservation d'un avion, de la demande de réservation d'un avion, d'une prise de contact avec le consulat du pays d'origine et de l'organisation, de l'exercice de tous les droits des retenus. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, au bout de 48 heures, oublié, par exemple, de signifier qu'il avait le droit à un interprète de tel organisme agréé, la rétention ne peut pas être poursuivie. Ensuite, après 48 heures, ça peut être prolongé 28 jours. Au bout de 28 jours, il faut justifier d'une absence très claire de réponse du pays d'origine pour prolonger à nouveau 30 jours. Ensuite, après 30 jours, pour prolonger de 15 jours, il faut que la personne ait clairement refusé, par exemple, d'embarquer dans l'avion. Au terme de ces 90 jours, si vous n'avez pas réussi à le mettre dans l'avion, c'est terminé. Il ressort libre, il faudra qu'il recommette une infraction pour être arrêté par la police et recommencer tout ce processus, sauf si le procureur décide de le poursuivre pour refus d'embarquer, ce que les procureurs, là on pourrait refaire une chronique sur le débordement de la justice, vous pensez bien que c'est un petit peu compliqué. Donc le problème qu'on a avec cet homme, c'est que c'est un cas particulier forcément dans la manière dont c'est organisé, mais finalement ça ne révèle rien que de très normal dans l'organisation des éloignements.
Mais finalement on se souvient que Gérald Darmanin avait évoqué la suspension des visas pour que les pays accordent des laissez-passer consulaires, il était allé sur place, notamment avec l'Algérie, mais c'est ce n'est pas le seul problème, l'acceptation des pays d'origine.
Ben, ce n'est pas le seul problème. La preuve, dans notre histoire, ça ne rentre absolument pas en compte. Et pourtant, l'éloignement ne se fait pas quand même. Alors, il y a un véritable problème de coopération de certains pays, notamment l'Algérie, avec qui Gérald Darmanin avait fait le fameux chantage au visa. Enfin, il ne l'appelait pas comme ça, mais dire on vous donnera moins de visas si vous ne reprenez pas. Je note par ailleurs que ça n'a absolument rien changé sur le nombre de reconduites en Algérie, puisque l'Algérie ne joue clairement pas le jeu de la reconnaissance de ses ressortissants illégaux en France, mais on a un autre problème qui est énorme, qui rejoint complètement la chronique de Dimitri, c'est-à-dire que l'accumulation de droits individuels d'étrangers en situation illégale contre le bien commun du pays, qui est la gestion basique de sa politique d'immigration, les deux sont clairement en contradiction, et il y a énormément de droits dans cette procédure qui permettent à la fois de réduire, on va dire, les chances d'aboutir seulement dans la procédure, et surtout qui augmentent considérablement les chances de la casser. Pour vous donner juste une petite idée, pendant tous ces 90 jours, vous avez à chaque fois qu'une décision est prise, il y a un recours possible pour le clandestin. Recours possible aidé à la fois par les associations qui lui expliquent quel recours il peut faire et par l'avocat qui est lui payé par l'argent public, on va dire. À chaque fois qu'il y a un recours du clandestin, il est suspensif de toute décision de la préfecture. Quand la préfecture fait appel d'une décision judiciaire, ça n'est pas suspensif. Mais c'est quand même magnifique. Donc le clandestin a beaucoup plus la main finalement sur son propre éloignement que la préfecture elle-même. C'est difficile à comprendre dans un pays où même Emmanuel Macron n'a cessé de répéter qu'on n'éloigne pas assez dans ce pays. Alors certes, il y a la question des laissez-passer consulaires. La chose la plus basique à faire, ce serait de simplifier drastiquement cette procédure qui par ailleurs est double, puisque la procédure d'obligation de quitter le territoire français, elle est à la fois judiciaire et administrative. Vous avez les deux en même temps. Ce serait peut-être la première chose à faire, et ça bizarrement personne n'en parle jamais.
Commentaire autour de la table.
Chaque fois que j'écoute la chronique de Charlotte, je suis chaque fois révolté. Et en même temps, je me dis, c'est l'histoire, cas par cas, de l'autodestruction des sociétés occidentales. C'est-à-dire, ou de leur suicide. Dans un siècle, quand on écrira l'histoire de la fin de notre civilisation, et que nous serons des derniers réduits de peuples occidentaux qui se demandent, mais qu'est-ce qui est arrivé? On va raconter l'histoire d'une civilisation qui s'est suicidée par une perversion du rationalisme, c'est-à-dire écrasement administratif, écrasement juridique et en dernière instance, impuissance politique, impuissance à décider des choses élémentaires comme expulser les gens qui n'ont pas d'affaires ici, qui ne sont pas ici chez eux parce qu'ils ne respectent pas les règles élémentaires. Mais nous avons programmé notre impuissance croyant faire preuve là d'humanisme et chaque fois, Charlotte nous raconte ça de manière détaillée et effrayante.
Vous êtes bien sombre aujourd'hui.
Non, pas tant que ça. Je suis objectif. Si j'étais sombre, je dirais que ça me rend triste.
Dimitri Pavlenko.
Non, mais je ne dis pas mieux, à savoir que c'est vrai que cet empilement, cette sédimentation du droit qui rajoute à chaque fois une couche supplémentaire au nom de l'humanisme, c'est vrai que c'est dramatique et ça aboutit à des résultats extrêmement contre-productifs. Alors, juste un détail, c'est que sur l'Algérie, semble-t-il, ils sont prêts là aujourd'hui à faire un effort dans la délivrance des laissez-passer consulaires, mais il y a une condition. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de lever le test PCR qui est nécessaire quand on vient d'Algérie pour entrer en France. Et donc, il y a cette idée que l'immigration légale doit être le prix à payer pour une gestion correcte de l'immigration illégale. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi.
Jean-Sébastien Ferjou.
Je crois que ça renvoie aussi à une forme d'hypocrisie, malgré tout, de la société elle-même. Il y a l'absurdité des règles que Charlotte décrit très bien, mais il y a aussi le fait qu'on aime malgré tout une forme de confort moral et que nous n'aimons pas nous imaginer assumant parfois un certain nombre de décisions qui peuvent être aussi difficiles. Donc on n'en aime ni les conséquences, mais on n'aime pas non plus les assumer. Donc ça renvoie quand même à ce manque de courage, me semble-t-il.
Bah, si je peux me permettre, manque de courage de nos élites, assurément. Le commun des mortels.
Pas uniquement parce que je pense que ça reflète dans la préservation au fil des années et dans leur réélection après élection, ça reflète malgré tout aussi quelque chose qui émane de la société.
Je poserais la chose autrement, la poussée des partis dits populistes, hein, c'est-à-dire globalement le RN ici, mais il y a d'autres possibilités, le fait que des partis de droite s'emparent de discours identitaires et sécuritaires avant les élections pour les oublier ensuite, mais partout dans le monde occidental, je veux dire, de Trump aux pays scandinaves, aux Britanniques, la question du Brexit n'était pas sans lien avec la question de l'immigration. Partout, la poussée populaire consiste à dire il faut reprendre ça en main et prenez les moyens humanistes, certes, légaux, certes, mais les moyens avec une véritable résolution politique pour être capable d'en finir avec l'immigration massive. Ça, l'appel est partout lancé. Mais on se trouve devant des élites qui refusent de le faire parce qu'elles pathologisent ce refus de l'immigration massive. Elles y voient racisme, xénophobie, refus de l'autre, ethnocentrisme et tout le tralala. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Je n'ai pas l'impression que les populations sont lâches ou sont sans courage. Je pense qu'on est devant des élites qui sont désaffiliées et qui, plutôt que de défendre leur pays, préfèrent persécuter symboliquement, moralement et quelquefois juridiquement ceux qui veulent défendre leur pays.
Je suis d'accord avec vous sur ce rôle-là des élites. Après, en face, il y a toujours, mais peut-être parce que nous avons de la peine à conjuguer le collectif et l'individuel, à hauteur d'individu, les gens préfèrent fermer les yeux et ils préfèrent, je ne sais pas, se battre pour la régularisation de leur babysitter en situation irrégulière. Alors que dans le même temps, ils peuvent justement trouver qu'il y a trop d'immigrés en France. Et cette contradiction-là, elle existe au cœur de la plupart des sociétés occidentales.
Et il est 8h moins le quart, alors on fait un point sur l'info. Jeanne Cancard.
Les Insoumis raflent la présidence très convoitée de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est Éric Coquerel qui a été élu aujourd'hui à ce poste stratégique dévolu à l'opposition et qui espérait remporter le Rassemblement national. La commission des finances occupe une place cruciale d'examen des budgets ou de projets de loi avant leur arrivée dans l'hémicycle. Le nombre de tests Covid a de nouveau franchi la barre des 2 millions en une semaine contre 1,6 million la semaine dernière. Une nouvelle illustration de l'accélération de la 7e vague de l'épidémie alors que les autorités sanitaires continuent d'appeler les plus fragiles à se faire administrer une 4e dose de vaccin. Alors que l'inflation atteint 5,8% en juin, selon l'INSEE, les allocations chômage vont être revalorisées de 2,9% dès demain. Un coup de pouce qui concerne 2,1 millions de Français. L'allocation minimale passe donc de 3,42 euros par jour contre 29,56 actuellement.
Jean-Sébastien Ferjou, on revient sur le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a adressé par un mail, un courrier aux professeurs dans lequel il égrène sa feuille de route. Au final, ce sont 5 grands axes de l'action qu'il souhaite mener, qu'il entend mener à la tête de son ministère. Le premier de ces axes, vous allez nous les développer, hein. Le premier, c'est celui de l'égalité des chances, qu'il place donc devant, si on le suit, l'accent mis sur les savoirs fondamentaux qui ne vient qu'en deuxième priorité. Pour vous, c'est une redoutable erreur intellectuelle de commencer par là, de concevoir les priorités dans cet ordre. Expliquez-nous pourquoi.
D'abord, je vous lis ce qu'est le premier axe donc pour M. Ndiaye. Le premier axe est celui de la lutte contre les inégalités sociales. Alors qu'elle promet de traiter à égalité tous les élèves, nous savons que l'école peine à donner à tous les mêmes chances de réussir. Cette promesse non tenue fait de l'ombre à nos actes. Elle entrave le développement économique de notre pays, elle nourrit la défiance à l'égard des institutions républicaines et elle nous meurtrit parce que nous sommes dans ce métier pour donner la possibilité à chaque jeune de s'épanouir et non en laisser sur le bord de la route. Nous allons renforcer ce qui existe déjà, innover quand il le faut pour que les inégalités de naissance soient mieux combattu par l'école, il est de ma responsabilité de prendre en charge le drame de l'injustice que nourrit notre système scolaire en ne permettant que suffisamment aux plus pauvres d'espérer transformer leurs conditions sociales. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur ce qu'un certain nombre d'esprits taquins ont relevé, à savoir que M. Ndiaye lui-même scolarise ses enfants dans le temple de l'élitisme et de l'entre-soi parisien. Mais si on devait mettre une pièce dans une cagnotte à chaque fois qu'on constate l'hypocrisie de la gauche morale mondaine, je pense qu'on aurait largement de quoi rembourser le déficit de la France. Plus exactement, je vais vous dire, M. Ndiaye a raison. Il a raison sur un point, et ce sont les enquêtes PISA qui nous le révèlent. Effectivement, la France, de tous les pays de l'OCDE, est celui qui constate le plus d'inégalités au sein de son système scolaire et qui peine justement à les combattre. Donc pour vous donner le chiffre, l'écart en France dans ce système PISA, vous savez, ce sont ces études qui sont faites régulièrement et qui comparent sur plusieurs milliers d'élèves dans différents pays du monde. Donc l'écart en France, la différence, elle est de 107 points entre les élèves issus d'un milieu favorisé et ceux issus d'un milieu défavorisé. La moyenne de l'OCDE, elle n'est que de 89 points. Maintenant, là où il a, à mon sens, complètement tort, c'est qu'il y a une double erreur logique. Déjà, il y a une erreur d'inspiration un peu soviétique. C'est-à-dire, vous savez, la planification agricole produit peu de récoltes. Qu'à cela ne tienne, faisons plus de planification. Parce que la pensée de M. Ndiaye, il ne vient pas de l'inventer. C'est-à-dire que cette logique de mettre au premier rang des objectifs de l'école la lutte contre les inégalités, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on l'applique. C'est ce qu'on a appelé le pédagogisme qui est apparu dans les années 70. Mais il confond l'objectif et les moyens. Et il inverse aussi... ce qui permettrait de lutter contre ces inégalités. Puisque sans apprentissage des savoirs fondamentaux, par définition, il n'y a pas de lutte contre les inégalités. Parce que prenez un exemple de deux choses l'une. Soit on considère qu'on nivelle par le bas parce que, justement, il y a des enfants qui ont la chance, c'est un fait, de bénéficier chez eux d'un capital culturel, etc. Et donc on dit, surtout, ne mettons pas des épreuves où ils seront avantagés par rapport à ceux qui n'ont pas ça chez eux. Mais que va-t-il se passer à la fin? De deux choses l'une. Soit tout le monde sera nul. Et de toute façon, ceux dont les parents ont un bon carnet d'adresses sauront s'en sortir dans la vie. Soit vous aurez de toute façon ceux qui sont nés dans les familles qui ont ce capital culturel et ils en bénéficieront alors que l'école n'aura jamais donné aux autres les moyens de s'en sortir par eux-mêmes s'ils n'avaient pas cette ressource-là chez eux. Donc c'est une erreur qui est absolument fondamentale. Et surtout, à mon sens, elle se heurte à quelque chose, c'est-à-dire que c'est une pensée qui est très niaise en réalité. Parce que considérer que la question des inégalités dans les démocraties occidentales, elle pourrait se régler à l'école, c'est passer totalement à côté du sujet. Il y a eu une évolution absolument fondamentale sur les sources de ces inégalités. Et quand on regarde au XXe siècle, avant il y avait des rentiers, et les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, ce n'étaient pas les mêmes. L'histoire du XXe siècle a fait en sorte que nous sommes arrivés à une société où maintenant ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez du patrimoine et en plus, vous gagnez beaucoup d'argent. Et en plus, en général, il y a deux personnes dans le foyer qui gagnent beaucoup d'argent. Donc ça produit un niveau d'inégalité qui est aussi lié à l'économie de la connaissance, qui n'a rien à voir avec ce que l'école peut gérer ou non. Ce sont sur d'autres fronts que ça se joue. Et je vous renvoie là à un livre assez fascinant qui avait fait sensation aux États-Unis de Daniel Markovitz sur le piège de la méritocratie et qui montre comment, et on en revient aux boomers, comment la méritocratie, tout le monde est pour. Et de la même manière, tout le monde est pour la lutte contre, et moi le premier, la lutte contre les inégalités sociales. Mais ce piège de la méritocratie, il montre très bien comment en réalité, il a abouti à ce qu'il y ait des gens qui sachent très bien maîtriser les systèmes scolaires et comment les plus riches sont en réalité ceux qui maîtrisent le mieux ce jeu de la compétition scolaire, avec en plus un côté insulte sociologique. Parce que comme on dit, on est dans des sociétés égalitaires. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous êtes nul. C'est parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens. Et précisément, on peut y voir aussi une des racines des Gilets jaunes quand on cherche bien.
Alors, en fait, vous nous dites que les pédagogistes qui ont pris le pouvoir sur l'école ont amené à un recul de la transmission des savoirs fondamentaux, mais concrètement, on arrive à le mesurer?
Oui, on arrive à le mesurer par les mêmes études. Mais le pédagogie, juste pour rappeler d'un mot le genre de choses que ça a été, ça a été cette pensée qui considérait que l'élève était au même niveau que le professeur, ou l'inverse. Et que donc le professeur n'était qu'un guide qui est là pour amener l'élève à faire les apprentissages par lui-même. On a aussi, on s'est obstiné pendant 20 ans en France avec la méthode globale d'apprentissage de la lecture, alors qu'on sait pertinemment qu'elle ne fonctionne pas. Et M. Ndiaye, de ce point de vue-là, est en rupture absolue avec son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, qui lui avait fait de l'apprentissage des savoirs fondamentaux le cœur de son action. Mais là où je vous disais, oui, on peut le mesurer, c'est-à-dire que c'est des résultats contrastés, les résultats PISA pour la France. On est sur la compréhension écrite plutôt dans la moyenne des pays de l'OCDE. On est loin derrière les pays asiatiques, mais là où ça se gâte, en quelque sorte, c'est vraiment sur les mathématiques. Pour le dire de manière assez simple, aujourd'hui, un élève qui en CM2 aurait été moyen en 1987, aujourd'hui serait le meilleur de sa classe. Et on est très, 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 très loin sur les mathématiques. Ça, ce sont les études TIMSS qui le montrent, des pays asiatiques, à commencer par le trio de tête qui sont Singapour, Hong Kong et le Japon.
J'ai dit pour commencer votre chronique qu'il y avait 5 axes prioritaires détaillés dans la feuille de route de Pap Ndiaye. Les autres axes de priorité mis en avant par le ministre de l'Éducation ne vous paraissent pas non plus très rassurants. Pourquoi ?
C'est ce qu'il y a derrière, surtout, parce que l'affichage, on peut le partager. Le cinquième axe, c'est la revalorisation du métier d'enseignant. Donc ça, c'est un débat entre Papendiaï, un enjeu entre Papendiaï et le corps enseignant. Les syndicats n'ont pas l'air d'être ultra convaincus en l'état, mais laissons-lui le temps. Mais le troisième axe, c'est celui du bien-être des élèves. Vous allez me dire, tout le monde est en faveur du bien-être des élèves, d'autant que les mêmes études PISA montrent que la France est celui des pays de l'OCDE où il faut consacrer le plus de temps, d'ailleurs, à maintenir l'ordre dans les classes. Mais là où c'est inquiétant, c'est que Papendia, il écrit, dans l'enceinte de l'école laïque, chaque enfant doit pouvoir se sentir encouragé et ne doit pas être confronté à des discours dévalorisants. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on le voit bien, faire le lien entre école laïque et discours dévalorisant, on entend bien, et c'est aussi un peu ce qu'il suggère entre les lignes, qu'il faut privilégier justement l'acceptation de la diversité. Et là encore, on confond l'objectif et les moyens, parce qu'en disant ça, on est totalement dans ce qu'a essayé de dénoncer Jean-Michel Blanquer. Le quatrième axe, c'est celui de la question écologique. Alors, il veut en mettre partout, mais là encore, c'est très bien. Effectivement, il y a un défi environnemental et climatique qu'il faut régler. Sauf que peut-être devrait-il s'inspirer de ce que d'autres pays ont constaté. Les autorités sanitaires britanniques, par exemple, ont alerté parce que les élèves se trouvent en situation d'anxiété. On appelle ça l'éco-anxiété. On dit qu'il faut arrêter avec les discours alarmistes dans l'éducation des enfants parce que nous sommes en train de faire grandir une génération qui se retrouve en situation de danger pour sa santé mentale tant on la fait grandir dans un environnement apocalyptique. Donc on voit bien en réalité que Papendiaï, ce qu'il veut, c'est faire de l'école un lieu de combat politique, un lieu de mise en avant de ce qu'est cette espèce de pensée. Alors même s'il est woke light, après on peut toujours se poser la question, on préfère le coca ou le coca light, c'est plus une question de gré que de nature, mais c'est cette pensée-là qu'on entend justement le courrier qu'a envoyé M. Ndiaye. Et juste un point, pour finir, un dernier point, il y a quelque chose qu'il a oublié, qui me tient à cœur depuis les débuts de cette crise Covid. Il ne parle absolument pas justement de l'équipement des écoles. Et sur l'aération, ce n'est pas que pour le Covid, mais sur l'aération, il y a des études américaines qui ont été faites, c'est 20% de différence. Les écoles, les classes qui sont équipées de purificateurs aérateurs d'air, c'est 20% de différence sur les résultats scolaire, 20% de différence, c'est de la même ampleur que de diviser les effectifs des classes par deux. C'est vous dire si c'est important. On a vu une occasion magnifique de le faire avec la pandémie, on ne l'a pas fait.
Sous-estimé. Mathieu Bocoté, c'est à vous. Oui. Eh oui, pour terminer en beauté, vers une Écosse indépendante. Il l'avait annoncé, il entend désormais tenir sa promesse. Le gouvernement écossais tiendra à l'automne, enfin voudrait tenir à l'automne 2023 un nouveau référendum sur l'indépendance du pays, le 19 octobre 2023 plus précisément. Si évidemment les choses passent comme Nicolas Sturgeon le souhaite, c'est pas si évident que ça. En tout cas, l'occasion vous semble belle de revenir sur la situation du nationalisme écossais et plus largement sur les différents visages de la question nationale en Europe. Et il y en a des visages.
Oui, alors c'est une histoire tout à fait passionnante. Je vous épargne la longue histoire des relations conflictuelles entre l'Écosse et l'Angleterre. Sinon, pour rappeler qu'en 1707, au moment de l'acte d'union, l'Écosse perd son Parlement et symboliquement, on y voit une perte d'indépendance. Mais les Écossais n'ont jamais renoncé à leur identité singulière. Ils ont conservé une forme de le mot nationalisme pas au sens négatif ici, une identité nationale forte, un nationalisme, une société civile très forte. À défaut d'avoir une existence politique, ils conservaient le sentiment, à travers la société civile, une conscience nationale très vive. Et à partir du début des années 1920, ressurgit cet idéal d'un État écossais indépendant qui va s'amplifier, qui va s'accélérer à partir des années 70. Fin des années 90, les Écossais réussissent dans le cadre de la dévolution pensée par Tony Blair à obtenir un Parlement régional. Je résume ainsi, un Parlement régional où ils peuvent disposer de leur propre existence politique. Parce qu'il y avait un parti nationaliste écossais, le Parti national écossais qui envoyait des députés à Londres. Là, ils ont leur propre Parlement. Que font les nationalistes écossais à partir de là? Mais c'est la conquête de leur propre parlement avec un horizon qui est la conquête de l'indépendance. Et que se passe-t-il? Donc là, j'arrive très rapidement. En 2011, les nationalistes écossais, le SNP, prend le pouvoir. C'est au temps d'Alex Salmond. Prend le pouvoir et négocie en 2012 avec les Britanniques, avec les Anglais, avec Londres. Ils disent « Parfait, on va trouver une formule pour tenir un référendum » qui sera accepté et par le pays dont on veut se séparer et par le pays qui veut se séparer. On va organiser un référendum et ça sera, qui sera accepté par tous. Et si le résultat est valable, ben, vous quittez. Si ça ne fonctionne pas, vous restez. Et le référendum a lieu en 2014, pardonnez-moi. Et que se passe-t-il? Résultat qui n'est pas déshonorant pour les nationalistes écossais, les indépendantistes, qui ont 45%, mais qui est quand même, sans ambiguïté, 45-55, vous perdez. Et les Écossais se disent probablement à ce moment-là, à la prochaine fois. Et peut-être disent-ils aussi, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver, mais pas pour l'instant. Qu'est-ce qui arrive entre-temps? Le Brexit. Et là, le Brexit révèle une fracture à l'intérieur des îles britanniques, du Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que les Anglais sont pour le Brexit. Ils veulent quitter l'Union européenne. Mais les Écossais sont contre le Brexit et ils veulent y rester. Alors, que se passe-t-il? Le Brexit révèle une fracture profonde à l'intérieur du Royaume-Uni. Donc, et les Écossais disent, eh bien, on s'est fait entraîner sur une question régalienne, une question de souveraineté, d'existence nationale. On s'est fait entraîner malgré nous dans un choix qui n'est pas du tout le nôtre. Et que se passe-t-il? Bien, les nationalistes écossais disent « Le Brexit vient de changer la donne. C'est l'occasion pour nous de lancer une nouvelle charge. C'est l'occasion de poser à nouveau la question de l'indépendance. » L'indépendance, c'était éloigné. On s'était dit « Peut-être pas pour cette génération, la suivante. » Eh bien, oups, elle revient dans l'actualité. En 2021, le SNP regagne les élections législatives et promet un référendum. Et là, c'est assez intéressant. Donc, référendum qui est celui qui est promis donc, par Mme Sturgeon. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous en dit aussi beaucoup sur le nationalisme écossais. Le nationalisme écossais, si on prend la peine de le regarder, c'est un nationalisme qui est assez à gauche, c'est-à-dire contre les idées convenues. Un nationalisme assez à gauche sur le plan social-démocrate. Ils sont même assez woke, soit dit en passant, ce qui n'est pas nécessairement leur plus grande qualité. Et c'est un nationalisme aussi attaché justement à l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'on va faire l'indépendance, mais dans les paramètres de l'Union européenne. Et c'est pas... ça peut étonner pour certains, mais si on pense aux trois mouvements nationaux qui ont une possibilité ou non d'accélérer l'indépendance dans le monde occidental, le Québec, les Catalans et les Écossais, dans les trois cas, c'est un nationalisme qui cherche toujours à se penser dans un espace plus vaste. Les Québécois ont longtemps nommé leur projet d'indépendance la souveraineté association. Les Catalans étaient persuadés qu'ils aimaient tellement l'Europe que l'Europe allait leur rendre et allait les soutenir au moment de faire de leur référendum. Ça n'a pas fonctionné. Hein. L'amour, quelquefois, il arrive que ce soit unilatéral. Et les Écossais, eux aussi, se disent « on va se projeter dans le cadre européen ». L'autre question qui se pose aussi, qui est très importante, c'est celle de la légalité du référendum. Alors, il y a trois options possibles. Référendum autorisé, référendum toléré ou référendum dénié, c'est-à-dire on refuse de faire le référendum. Les trois exemples existent. Au Québec, 1980-1995, deux référendums sur l'indépendance qui sont tenus par le gouvernement. C'est la pause?
Ah oui, mais je peux terminer quand même un petit peu la phrase. Un simple geste suffit.
Je ne coupe jamais le Québec en deux. Poursuivez.
Allez, il est 20h, on fait un point sur l'actu avec Jeanne Cancar.
Au lendemain du verdict rendu par la Cour d'assises spéciale de Paris au procès du 13 novembre, la justice belge s'est-elle prononcée, avec notamment 4 relax, 2 peines de prison ferme et du sursis pour le logeur de Salah Abdeslam à la fin de sa cavale. Dans ce dossier, baptisé Paris Bis, 14 complices présumés des commandos étaient visés. En marge du sommet de l'OTAN à Madrid, Emmanuel Macron a symboliquement transmis la présidence tournante de l'Union européenne au Premier ministre tchèque. Le chef de l'État qui a précisé que les derniers efforts de la présidence française qui prend fin ce soir à minuit sont consacrés à finaliser l'accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord pour permettre l'ouverture de négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. Et après 4 ans de négociations, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu aujourd'hui un accord de libre-échange, un accord qui pourrait gonfler de 30% leurs échanges bilatéraux, en particulier dans le secteur agricole.
Mathieu, reprends sur le Québec et les autres exemples.
Alors, je disais, il y a 3 cas possibles. Donc, on décide de faire son propre référendum qui est toléré par les autorités de l'État. Donc, ce qui s'est passé au Québec en 80-95, le gouvernement québécois organise le référendum. Ensuite, le gouvernement fédéral s'en mêle, mais il est tenu en tant que tel. Ensuite, il y a le cas des Écossais, des Catalans, qui décident de faire le référendum, mais qui est contesté par le pouvoir central, par Madrid. Et on a vu qu'il y a eu une répression assez violente du référendum, comme j'aime dire, quand certains disaient, les Écossais, Les comme dire, les Espagnols n'étaient pas si violents dans la répression du nationalisme catalan au moment du référendum. Je dis oui, c'est à ce moment-là qu'on a vu hein, les Catalans donner des coups de tête aux matraques espagnoles. Et le troisième cas, ben, c'est l'Écosse, c'est-à-dire un référendum accepté dans une entente avec le pays dont on veut se séparer. Et ça, en 2014, le référendum avait été accepté. Et là, le problème, c'est que là, les Britanniques disent non. Pas cette fois-là, c'est une fois par génération, donc on n'accepte pas ce nouveau référendum. Et Nicola Sturgeon dit on ne veut pas un scénario à la catalane où on impose un référendum qui n'est pas accepté par l'État hôte, disons comme ça, par l'État central. Donc c'est la part d'imprévu en ce moment.
Si on se projette un peu, si le Royaume-Uni devait éclater, est-ce que ça ne risquerait pas de fragiliser d'autres États en Europe?
Non, je ne crois pas. Ça, c'est la grande peur, je pense, de certains républicains français qui voient partout éclater la Corse. Or, le fait est qu'il y a globalement... Quels sont les États en situation de se constituer en État indépendant? C'est-à-dire des nationalismes qui pourraient basculer vers l'indépendance très rapidement. L'Écosse, on l'a dit, la Catalogne aussi. Il y aurait peut-être le cas de la question flamande en Belgique, mais vu le rôle de la Belgique dans l'Union européenne et la situation particulière de Bruxelles, qui est culturellement séparée du reste du pays, ça rend la chose compliquée. Mais plus largement, il faut éviter de mélanger entre des mouvements qui ont une possibilité réelle d'accéder à l'indépendance et des régionalismes qui sont normalement porteurs d'une particularité identitaire soft, un particularisme identitaire, je dirais pas mineur, mais qui est compatible, par exemple, dans un État fédéral. On l'a vu notamment en Italie, l'Italie qui s'est fédéralisée pour être capable justement de tenir compte de sa diversité interne. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un effet de domino qui viendrait avec une éventuelle indépendance écossaise, qu'on la souhaite ou non. Cela dit, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu trois grandes vagues, en fait, d'accession à l'indépendance au 20e siècle. Après la Première Guerre mondiale, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, et aussi de la Russie, donc des pays NES, la décolonisation, et ensuite la chute de l'Union soviétique. Et là, on voit donc la Tchécoslovaquie se décompose, les Baltes font leur indépendance, la Yougoslavie dit j'éclate, là c'est une situation plus dramatique. Mais le fait est que les pays se multiplient. Depuis le début du 20e siècle, les pays se sont multipliés pour une raison simple. La loi de l'histoire veut que chaque peuple finisse par avoir son propre État indépendant.
Et pourtant, on touche là au problème de l'intangibilité des frontières.
Eh bien oui, ça se résume assez simplement. Est-ce que l'idée, c'est que les frontières doivent... Les peuples doivent se soumettre aux frontières ou est-ce que les frontières doivent s'adapter aux États pour peu qu'on croit à l'existence des peuples, qu'on ne les voit pas comme des constructions sociales artificielles, donc des communautés d'histoire, de mémoire, de culture qui aspirent à la pleine existence politique, les frontières sont appelées à s'y adapter. Quant à moi, je me contenterai de dire bonne chance aux Écossais.
Merci beaucoup à vous quatre et on se retrouve lundi pour Face à l'info dès 19h. Tout de suite, c'est Pascal Praud et ses invités, c'est bien sûr l'heure des Pro 2. Je vous souhaite une excellente soirée sur CNews.